Donc, Alain Le Bouillec, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, comme Christian Jambé et comme Jean-Daniel Dubois d'ailleurs, est déjà intervenu dans nos journées. Et je le remercie de nous faire l'amitié de parler à nouveau. Il est un grand spécialiste des pères grecs après toute une trajectoire de normalien agrégé de lettres classiques, qui est spécialisé dans les, ce qu'on appelle les pères grecs, étudiant Grégoire de Nice, Clément d'Alexandrie, Théodore de Mopsueste, et bien d'autres domaines d'ailleurs, comme notamment la Bible grecque des Septante, et également les apocryphes, comme Jean-Daniel Dubois, il fait partie, il est le fondateur de l'Association d'études de la littérature apocryphe chrétienne. Et son œuvre est aussi un peu trop considérable pour qu'on y fasse allusion ici. Merci beaucoup.
Merci Pierre. Donc mon propos est de donner beaucoup la parole à Clément d'Alexandrie, donc que je citerai abondamment. Vous percevrez sans doute des ressemblances et des différences par rapport aux analyses profondes présentées tout à l'heure par Christian Jambé. Et mon exposé se situe aussi dans la ligne de celui de Jean-Daniel Dubois, puisque Clément d'Alexandrie n'a pas été seulement un adversaire virulent des gnostiques qu'il appelle hérétiques, mais il a cité, comme l'a rappelé Jean-Daniel, Valentin, Basilie, Théodore, Isidore, le fils de Basilie, de Théodote, et par certains aspects, sa doctrine elle-même est assez proche de celle des gnostiques qu'il combat. Et peut-être que l'une des recherches à mener maintenant, on connaît beaucoup mieux les textes découverts dont a parlé Jean-Daniel tout à l'heure, l'une des recherches pourrait-elle justement d'essayer d'éclairer certains des passages les plus énigmatiques de Clément d'Alexandrie à l'aide de ces textes nouveaux. Donc, Clément d'Alexandrie, évoquant ses voyages à la recherche d'un maître, parmi les hommes bienheureux dont il a pu, écrit-il, écouter les paroles pleines de vie, rappelle que sa quête s'est achevée en Égypte. J'ai rencontré un dernier, et par la capacité, il était le premier, et je cessai alors ma chasse quand je l'eus découvert en Égypte où il se cachait. C'était une véritable abeille de Sicile, butinant les fleurs de la prairie des prophètes et des apôtres. Il a fait naître dans les âmes de ses auditeurs un trésor de connaissances, de gnose immaculée. Eusèbe de Césarée, le premier auteur d'une histoire de l'Église au IVe siècle, situe l'enseignement de Pantène, que Clément nomme ailleurs, et qui doit être ce maître dont il parle au début du livre 1 de ses Stromates, au temps de l'empereur Commode, à partir donc de 180, ce qui donne une date approximative pour l'arrivée de Clément à Alexandrie. Il a dû rédiger le premier livre de l'ouvrage qu'il a rendu célèbre dès l'Antiquité, une quinzaine d'années plus tard. Retenons qu'il qualifie l'enseignement de Pantène de trésor de gnose. Le nom gnose et l'épithète gnostique sont très fréquents dans ses écrits, tout particulièrement dans les Stromates. Ils sont associés à la perfection, tant du savoir que de la conduite morale. Cette gnose est chrétienne, elle se fonde en effet sur la lecture des prophètes et des apôtres, telle que lui-même la conçoit, elle est aussi philosophique. Clément a une solide formation en philosophie grecque, avec une nette prédilection pour Platon et aussi pour les stoïciens. Il connaît l'opposition entre la connaissance, gnosis, qui se rapporte à l'être, et l'ignorance, agnoia, qui se rapporte au non-être, tel que l'a défini Platon dans la République. Il peut reprendre aussi la distinction faite dans le Politique entre la science pratique, episteme praktike, et la science de connaissance, episteme gnostike, ou connaissance théorique, qui appartient à l'ordre de la contemplation. Clément trouve principalement des sources d'inspiration pour ses pensées sur la gnose dans les écrits pauliniens. Depuis l'exclamation de Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, devant les mystères de ses voies impénétrables », jusqu'au jugement sévère contre la gnose qui enfle quand elle est séparée de l'amour, 1 Corinthiens 8, 1-3. Jugement qui est confirmé par l'éloge de l'agapé en 1 Corinthiens 13, 2. La gnose, pardon, il faut se souvenir de cette référence quand on lit les réflexions de Clément sur la gnose, même celles qui prennent un tour philosophique, et revenir au texte qui insiste sur la médiation de la connaissance du Christ chez Paul. Par exemple, ces paroles capitales de Paul, « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. » La gnose, contemplation, en passant par le Christ, est aussi imitation du Christ. Paul dans les Philippiens, « Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. » Il faut ajouter aux lettres pauliniennes l'épître de Barnabé, que Clément vénère et révère au même titre que les écrits du Nouveau Testament. Un fragment de ces hypotyposes, cité par Eusèbe de Césarée, est à cet égard significatif. À Jacques le Juste, à Jean et à Pierre, le Seigneur, après sa résurrection, donna la gnose. Ceux-ci la donnèrent aux autres apôtres, les autres apôtres la donnèrent aux 70, dont l'un était Barnabé. Clément cite souvent l'épître attribuée aux compagnons de Paul. Il trouvait là de quoi conforter la liaison qu'il maintenait entre la gnose et la foi, ainsi que l'association de la gnose et des vertus. Il repérait aussi dans cet épître l'accord avec sa conception d'une gnose présente dans les Écritures à déchiffrer au moyen de la référence au Christ. Et Clément tire aussi de cet épître l'idée qui lui est chère, que la gnose est réservée aux élus, ceux qui connaissent la bonté du Père. Il retient de l'interprétation symbolique donnée par Barnabé du précepte « Vous ne mangerez ni porc, ni aigle, ni vautour, ni corbeau » et de l'autorisation de manger de l'animal qui a le sabot fendu et qui rumine. Il en tire le devoir de rechercher le sens figuré des Écritures pour atteindre la gnose. Un passage de l'épître de Barnabé l'amène, par contraste, à dénoncer une hérésie qui, à son avis, prône une gnose dévoyée. Je sais, quant à moi, avoir rencontré une certaine hérésie dont le chef assurait combattre la volupté par l'usage de la volupté, déserteur passant au camp de la volupté à la faveur d'un combat simulé. Quel noble gnostique c'était ! Car il affirmait qu'il était, lui aussi, gnostique. D'après lui, en effet, ce n'est pas une grosse affaire que de s'abstenir de la volupté quand on n'en a pas l'expérience. Mais le difficile, c'est au milieu de la volupté de n'être pas vaincu par elle, et c'est pourquoi il s'exerçait à y vivre en la pratiquant. À ce passage fait écho un développement du livre 3 des Stromates, qui est un autre des rares témoignages anciens attestant que le nom gnostique était pour certains une autodésignation. Clément s'en prend en effet aux opinions professées par les disciples de Prodicos qui s'attribuent, en usurpant, le titre de gnostique. Ils se disent eux-mêmes « fils par nature du premier Dieu » et, abusant de leur noble origine et de leur liberté, ils vivent comme ils le veulent. Or, ce qu'ils veulent, c'est la volupté, convaincus que personne n'est au-dessus d'eux, puisqu'ils sont maîtres du sabbat et fils de roi, supérieurs par nature à toute race. Or, disent-ils, pour un roi, pas de loi écrite. » On aborde ici la dimension polémique de la gnose de Clément, qui s'oppose à celle qu'il considère comme hérétique et dont il répartit les adeptes en deux ensembles contraires, les licencieux et les encratites, pratiquant une continence extrême. Au premier, au-delà de la condamnation morale, il reproche de se considérer par nature, quoi qu'il fasse, élus et sauvés. Au second, de mépriser le Dieu créateur, qui offre tous les biens de la terre et dont la providence veille sur le genre humain. Il accuse les uns et les autres d'orgueil en leur appliquant la formule de Paul, la gnose enfle. Il fustige en outre leurs erreurs sur Dieu, les prétendus licencieux distinguant aussi un Dieu Père transcendant du démiurge de ce monde. Ainsi peut-il les accabler de l'appellation gnose au nom menteur, déjà forgée par 1 Timothée 6:20 et reprise par Irénée de Lyon dès le titre de sa somme théologique et anti-hérétique, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Contre eux, il se réfère à l'attaque de Luc contre ceux qui confisquent la clé de la connaissance, et l'épître de Barnabé lui offre encore des arguments, cette fois pour rejeter une gnose qui s'affranchirait des œuvres et, en ses commencements du moins, de la crainte de Dieu. Il faut donc tenir compte de la rivalité de Clément avec la gnose qu'il qualifie d'hérétique et qui représente comme le contraste, le contraire de celle qu'il recherche et qu'il propose comme idéal à ses auditeurs et à ses lecteurs. Il faut rappeler aussi que Clément a eu maille à partir avec des chrétiens d'Alexandrie qui, eux, étaient hostiles à la philosophie et qu'il a eu beaucoup de, enfin, qu'il passe beaucoup de pages dans ses écrits à justifier le recours à la philosophie pour étayer et développer la doctrine chrétienne. Donc, j'en viens à quelques définitions de la gnose que donne Clément. Elle est inséparable pour lui des œuvres, des actes, erga, et elle est pensée d'emblée, elle aussi, comme modalité de relation de l'être humain à la divinité à l'intérieur de la doctrine du salut, soteria. Je cite, « Et puisqu'il y a deux voies qui conduisent à la perfection du salut, les actes et la gnose, le Seigneur proclame heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et si nous considérons réellement ce qui est vrai, la gnose est purification de la faculté directrice de l'âme, et elle est une activité, energeia, excellente. » Et Clément poursuit, « Il les veut purs à l'égard des désirs corporels et des pensées mauvaises, ceux qui arrivent à la connaissance de Dieu, lorsque la faculté directrice de l'âme n'a plus rien de bâtard pour en entraver le pouvoir. » Or, si la gnose est elle-même activité de l'âme purifiée en sa fonction principale, cognitive et délibérative, elle devient chez l'acteur un état durable, stable. Dans ce passage, qui appartient à un commentaire des Béatitudes du Sermon sur la montagne et qui mêle terminologie stoïcienne et référence platonicienne, Clément ajoute en effet « Toutes les fois, donc, qu'il s'adonne à la contemplation, des théoria, en conversant dans la pureté avec la divinité, le gnostique, qui participe à sa sainte qualité, entre lui profondément dans l'état d'impassible identité, si bien qu'il n'a plus la science et ne possède plus la gnose, mais qu'il est lui-même science et gnose. Cette sainte qualité est l'impassibilité atteinte au terme de la lutte contre les passions jusqu'à la maîtrise totale, au point que l'apatheia devient état, exis, la négativité de l'absence de passion aboutissant à la stabilité d'une personne capable de s'accomplir entièrement dans l'activité de la contemplation en laquelle consiste finalement son identité. On voit que Clément transforme la contemplation platonicienne en conversation avec la divinité, cette homilia pouvant aller jusqu'à l'assimilation à Dieu par la connaissance de sa volonté et à la réalisation effective de la ressemblance avec Dieu édictée en Genèse 1:26, ce qui transforme la formule fameuse du théétète de Platon, souvent citée et adaptée par Clément, l'évasion d'ici-bas, c'est de s'assimiler à Dieu autant que possible, complétée ainsi par Platon, or on s'assimile à Dieu en étant devenu juste et pieux avec l'accompagnement de la pensée. Pour éclairer ce point, on peut retenir, parmi de nombreux passages, ces considérations de Clément sur la prière dans le Stromate 7. Si la prière est une occasion d'entrer en conversation avec Dieu, il ne faut négliger aucune occasion de s'approcher de Dieu. En vérité, la piété du gnostique, intimement liée à la providence bienheureuse par le mouvement volontaire de la profession, manifeste l'achèvement de la bienfaisance de Dieu. Car la piété du gnostique est un retour à elle-même de la pensée providentielle et une réponse de la pensée affectueuse de l'ami de Dieu. Et encore, tout en connaissant la volonté toute-puissante, le gnostique prie et tout ensemble possède, parvenu tout près de la puissance absolument souveraine, appliqué à être spirituel, il est déjà, par l'amour sans limite, uni à l'esprit. Clément présente la gnose comme la voie accompagnée des actes qui conduit à la perfection du salut. Cette cible n'est pas statique. Le mot employé est teleiosis, donc nom d'action, perfectionnement, et non pas teleiotes, perfection. Le salut ultime étant la participation au cœur divin et l'union à Dieu, la gnose qui y mène est certes un état, une exis, mais cet état est susceptible de développement et d'intensification. Le progrès continue après la mort, dans le séjour céleste, jusqu'à l'obtention de la pleine déification, théopoiesis. Je cite, « Il est évident que jamais personne, écrit Clément dans le Stromate 5, pendant la durée de sa vie, ne peut saisir Dieu par une perception claire. Mais ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, Matthieu 5, 8, quand ils seront parvenus au terme de la perfection, eisten eskaten teleiosin. De nombreux textes parlent de cette progression. Par exemple, le progrès pour les âmes qui ont fait choix de la vertu avance toujours vers le mieux jusqu'à ce qu'elles parviennent au bien lui-même, arrivées dans le vestibule, pour ainsi dire, du Père, tout près du grand prêtre éminent. L'image du vestibule et la désignation du bien suprême sont platoniciennes. Elles sont métamorphosées par l'allusion à la partie du temple qui précède le Saint des Saints, où seul, une fois par an, pénètre le grand prêtre, figure du Christ, et par la référence à la transcendance du Père. Clément distingue la valeur qu'il donne à la gnose du sens ordinaire du terme gnosis. On dit que la gnose est double. Prise au sens ordinaire, c'est l'intelligence, la capacité de saisir, qui se manifeste de manière identique et universelle chez l'ensemble des hommes quand ils prennent connaissance de tout objet. Jamais, pour mon compte du moins, je n'irai lui donner le nom de gnose, précisément parce que sa nature lui fait saisir les choses en utilisant des organes sensoriels. En revanche, la gnose proprement dite se caractérise par la réflexion et la raison, et c'est par elle que les puissances douées de raison, et elles seules, deviendront des gnoses, puisqu'elles s'appliquent exclusivement aux réalités intelligibles par la pure activité de l'âme. Cette définition, en apparence strictement philosophique, voit faire la théorie platonicienne de la connaissance du semblable par le semblable et la thèse stoïcienne de l'oikeiosis, de l'appropriation de la raison à ce qu'elle conçoit, prépare la définition plus religieuse et théologique que nous avons signalée plus haut et qui distingue l'avoir et l'être. Une réflexion sur la prière fait aussi écho à ces passages. Le gnostique, écrit Clément, formule donc toujours sa prière et sa demande à propos des biens véritables qui concernent l'âme, et sa prière s'accompagne de sa collaboration personnelle pour parvenir à l'état de bonté, eisexin agathotetos, de manière à ne plus avoir les biens comme des savoirs à sa disposition, mais à être bon. La gnose, en tant qu'activité de l'âme, qui a pour objet les réalités intelligibles et les biens véritables, en tant que principe initial et créateur de toute action raisonnable, comporte des degrés. Dans le domaine moral, elle procure l'appréciation juste, logistia, car elle enseigne à discerner ce qui est capable d'aider au maintien de la vertu. Cette appréciation juste étant encore un concept de l'éthique stoïcienne. Mais Clément ajoute aussitôt, le plus important, certes, est la connaissance de Dieu. Aussi assure-t-elle l'inadmissibilité de la vertu. Et celui qui en est à la connaissance de Dieu est pieux et religieux. Entendons la connaissance du Dieu véritable selon Clément et non les croyances grecques. Clément approfondit ce thème dans son traité en forme d'homélie « Quel riche sera sauvé ?» sur l'épisode du jeune homme riche en Marc 10. Il faut donc commencer par faire pénétrer directement dans l'âme le plus grand et le plus important des savoirs vitaux, la connaissance de Dieu, qui est éternel et donne l'éternité, Dieu qui est premier, au-dessus de tout, unique et bon. Ce savoir, il est possible de l'acquérir par une connaissance et une saisie intellectuelle, car le principe et le fondement immuable et inébranlable de la vie, c'est la science de Dieu qui existe vraiment et fait don du réel, c'est-à-dire des biens éternels. C'est à partir de lui que tout le reste peut exister et recevoir la capacité de durer. L'ignorer, c'est la mort. Seul le fait de le connaître, d'être son intime, de l'aimer et de lui être semblable, mérite le nom de vie. Cette connaissance de Dieu authentique, Clément l'oppose à l'opinion fausse, en donnant un sens figuré à la parole sur l'adultère d'Exode 20:12. L'adultère consiste à abandonner la connaissance véritable donnée dans l'Église et le discernement sur Dieu pour aller vers la fausse opinion qui ne convient pas, soit en divinisant un être créé, soi-même en se faisant une idole d'un être qui n'existe pas, au point d'outrepasser ou plutôt de quitter la connaissance. La fausse opinion reste aussi étrangère au gnostique que la véritable lui est familière et l'accompagne. La dénonciation vise, plus encore que le polythéisme grec, la doctrine des éons chez les gnostiques considérés comme hérétiques par Clément. Il y a ainsi une connaissance véritable de Dieu qui est ecclésiastique, opposée aux représentations d'hérétiques. Le discernement intellectuel s'accompagne du respect d'une règle d'orthodoxie inhérente à l'enseignement de Clément sur la gnose. Une activité importante qui caractérise la gnose et l'effort fait pour comprendre les Écritures, qui comportent un sens caché. Il est possible, écrit Clément, de tirer plusieurs relations de sens, comme nous le faisons, de ce qui est dit à mots couverts, met epicrypseos. Dans ces conditions, l'homme inexpérimenté et ignorant se trompe, mais le gnostique comprend. La gnose est une forme de la prudence, phronesis. La prudence est composée de plusieurs parties. Elle s'étend à travers le monde entier, dit Clément, et à travers toutes les réalités humaines, en changeant d'appellation suivant chacune d'elles. Lorsqu'elle s'applique aux causes premières, on l'appelle intellection. Quand elle affermit cette dernière par une démonstration, on la nomme connaissance, sagesse et science, gnosis, sophia, épistémé. Quand elle s'exerce dans ce qui a trait à la piété et qu'elle a, sans contemplation, accueilli la parole de l'origine en maintenant l'efficacité de son action en elle, on parle de foi, pistis. Mais ce qui est particulier, réellement seigneurial et souverain, ce que le croyant reçoit encore par surcroît après sa foi solide, c'est l'Esprit Saint qui le visite. Ce développement, qui a des résonances platoniciennes, oriente les distinctions philosophiques vers des conceptions chrétiennes. En effet, la parole de l'origine peut renvoyer au prologue de l'évangile de Jean. La relation entre foi et gnose est plus qu'implicite, la différence entre les deux étant que la gnose est contemplation, théoria, comme le font entendre d'autres textes de Clément, et qu'elle use de la démonstration, comme le précise Clément dans ce passage du Stromate 2. La démonstration supérieure, celle que nous avons désignée par le mot scientifique, épistémonique, confère la foi en présentant les Écritures et en les ouvrant aux âmes désireuses d'apprendre tout ce en quoi consiste assurément la gnose. Si, en effet, les arguments apportés à la solution d'un problème sont reçus comme vrais, tels que peuvent être des arguments qui s'appuient sur Dieu et les prophéties, il est assez évident que la conclusion qui leur est jointe sera par suite également vraie. Et l'on n'aurait pas tort de dire que la gnose est une démonstration apodeixis. On perçoit que la foi est doublement liée à la gnose. Pour que celle-ci se mette à l'œuvre, il faut d'abord que la foi accueille la véridicité des paroles inspirées des Écritures, qui sont les prémices de l'argumentation élaborée par la gnose. Et la gnose qui use de la démonstration, au terme, renforce intelligiblement la foi. L'une et l'autre, en outre, dépendent de la présence de l'Esprit Saint dans le croyant. On constate aussi que gnose, science et sagesse sont synonymes. Le troisième terme, sophia, correspond à la connivence de Clément avec la littérature sapientielle de la Bible à laquelle il se réfère constamment. Il décrit la science, épistémé, avec les termes stoïciens, tout en reprenant l'étymologie du mot épistémé donné par Platon dans le Cratyle. Il fait dériver son emploi de stasis, position, parce que épistémé pose, istesi, notre âme sur les réalités. la gnose, la sagesse et la science sont dotées de la même fermeté et de la même stabilité. Et, transposant une formule stoïcienne, Clément peut affirmer « La science authentique, celle qui d'après nous est l'apanage du seul gnostique, c'est une ferme saisie des réalités qui, par l'intermédiaire du discours ferme et vrai, mène à la connaissance de la cause. » Dans la définition de la gnose, comme l'a souligné surtout Walter Völker, les emprunts à l'intellectualisme stoïcien, à la religiosité platonicienne, au langage des mystères, à la littérature sapientiale biblique, à Philon d'Alexandrie, composent un discours extrêmement complexe dont les caractères chrétiens sont à mettre en évidence. J'en viens aux conditions d'accès à la gnose selon Clément. On ne peut acquérir la gnose par ses propres forces, ni exprimer Dieu. Mais les hommes, dit-il, en tant qu'hommes, ne sont pas des maîtres autorisés quand ils parlent de Dieu. En effet, quand on n'est qu'un homme, on est incapable de dire la vérité sur Dieu. L'être faible et périssable ne peut parler de l'inengendré et de l'incorruptible, ni l'œuvre de son créateur. Et puis, quand on est incapable de dire la vérité sur soi-même, ne doit-on pas être encore moins digne de foi à propos de Dieu ? Car autant la puissance de l'homme est inférieure à celle de Dieu, autant s'accuse la faiblesse de sa parole, même lorsque, loin de dire Dieu, elle parle des attributs de Dieu et de la parole divine. Par nature, en effet, la parole humaine est faible et incapable d'exprimer Dieu. Je ne parle pas du nom de Dieu, car philosophes et poètes ont en commun de le nommer, ni de son essence, impossible à dire, mais de ses puissances et de ses œuvres. Cependant, ceux qui choisissent Dieu pour maître parviennent non sans peine à une notion de Dieu, car la grâce les aide à atteindre une certaine connaissance dans la mesure où ils s'habituent à contempler en quelque sorte par la volonté, et par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit scrute les profondeurs de Dieu, confère 1 Corinthiens 2,10, mais un homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit. Dans ces conditions, seule notre sagesse est enseignée par Dieu, Théodidactos Sophia, et c'est d'elle que dépendent toutes les sources de la sagesse, celles du moins qui visent la vérité. Dans ce développement, Clément semble réduire à néant toute forme de connaissance de la divinité, puisqu'il va jusqu'à nier, au-delà de l'impossibilité de dire l'essence de Dieu, la capacité de parler de ses attributs, de ses puissances et de ses œuvres. Il corrige cependant cet excès en se révélant implicitement aux doctrines de la ressemblance avec Dieu constitutive de l'être humain, qui rend possible la connaissance, du semblable par le semblable, de la présence de l'Esprit Saint dans le baptisé, au devoir du sage d'épouser la volonté providentielle, et aussi à l'enseignement des Écritures qui révèle les activités de Dieu. Le pédagogue décrit la vertu du baptême en ces termes, « Lorsque nous sommes baptisés, étant débarrassés des fautes qui, à la manière d'un nuage, faisaient obstacle à l'Esprit divin, nous rendons libres, sans voile et lumineux, cet œil de l'Esprit qui seul nous fait contempler le divin, car le Saint-Esprit venant du ciel s'écoule en nous. » Quant à la nécessité de la médiation du Fils, elle est affirmée en de nombreux textes, notamment dans ce dévoilement du Stromate 6, qui propose une exégèse symbolique d'Isaïe 8, 1, 2, concernant l'histoire de la révélation et le rôle décisif du Sauveur. Le prophète Isaïe, de son côté, reçoit l'ordre de prendre un livre nouveau et d'y écrire quelques mots. L'Esprit prophétise ainsi que viendra plus tard, grâce à l'exégèse des Écritures, la connaissance sainte, qui, à ce moment-là, ne se trouve pas encore écrite parce qu'elle n'est pas encore connue. Au commencement, en effet, elle n'avait été dite qu'à ceux qui pouvaient comprendre. C'est précisément lorsque le Sauveur l'enseigne aux apôtres que la tradition non écrite de ce qui est écrit nous parvient à nous aussi aujourd'hui, inscrite par la puissance de Dieu sur des cœurs rendus nouveaux par le renouvellement du livre. Sans commenter la mention de tradition non écrite, notons que la foi en l'intervention du Sauveur dans un déchiffrement de la Bible conduisant à la connaissance est une condition essentielle. Bon, je passe sur certains textes puisque je vois que le temps va trop vite. Et j'en viens à la deuxième condition d'accès à la gnose, qui est la recherche qui fait entrer l'effort humain dans la synergie avec Dieu. Clément considère sa propre œuvre sous cet aspect. Ces stromates, dit-il, ces tapis de notes contribuent sans doute au rappel et à l'apparition de la vérité pour celui qui est capable de rechercher d'une façon rationnelle. Il insiste sur la difficulté de découvrir le bien caché, sur l'entraînement qui implique l'effort. La connaissance n'est-elle pas d'ailleurs en quelque sorte une propriété de l'âme douée de raison qui pratique l'ascèse pour mériter l'immortalité par la connaissance? Cette insistance a sans doute une visée polémique contre les gnostiques hérétiques accusés de se croire une élite naturelle, fusei. La collaboration de l'homme est multiforme, elle est d'ordre éthique tout d'abord. Le gnostique, dit Clément, ne fait jamais passer l'agréable et l'intérêt avant le plan divin, mais il s'entraîne au moyen des commandements afin de plaire en tout au Seigneur et d'être un objet de louange pour le monde, puisque toutes choses dépendent d'un seul, le Dieu Tout-Puissant. Dans sa prière, le gnostique doit demander de pouvoir faire le bien afin d'être initié à la contemplation béatifique, face à face, grâce à la connaissance parfaite qui nous vient par l'intermédiaire du Fils de Dieu. Il aura écouté l'Écriture qui dit « Il est bon de pratiquer le jeûne avec la prière ». Les jeûnes, dit-il, désignent le fait de renoncer à tous les actes mauvais, de quelque sorte qu'ils soient, en action, en parole et même en pensée. Clément rappelle aussi qu'il est impossible que la gnose aille de pair avec une mauvaise conduite et que la connaissance est une science venue de Dieu, cette lumière née en notre âme de l'obéissance au commandement qui révèle en pleine clarté tout ce qui dépend de la génération, dispose l'homme à se connaître lui-même et lui enseigne comment atteindre Dieu. Il faut aller plus loin. Dieu est amour, agapé, proclame Clément, reprenant 1 Jean 4, 16, comme aussi Dieu est fidèle, lui qui se livre fidèle par l'étude, etc. La foi est nécessaire, elle est inextricablement liée à la gnose, comme le Fils au Père. Il faut appréhender la vérité à travers la vérité. Et j'en viens maintenant à l'Écriture et la tradition comme source de la gnose. Clément reprend dans le protreptique les formules de 2 Timothée 3, 15, 16 sur l'inspiration des saintes lettres. Dans les stromates, il fait de la gnose l'intelligence des prophéties. Le programme qu'il trace au début du livre 4, après l'annonce de recherches sur les théories relatives aux principes chez les Grecs et chez les hérétiques, se place sous l'autorité des Écritures. Il s'en suivra naturellement, écrit-il, après cette incursion dans la théologie, de parler des traditions sur la prophétie. Ainsi, ayant montré que les Écritures auxquelles nous accordons foi sont fortes d'une autorité absolue et toute-puissante, nous pourrons, grâce à elles et par une suite logique, aller de l'avant et par là prouver à tous les hérétiques un Dieu unique, Maître tout-puissant, authentiquement annoncé par la loi et les prophètes, et en outre par le bienheureux Évangile. Ancien et Nouveau Testament forment une unité infrangible. La foi au Christ, dit-il, et la gnose de l'Évangile sont en même temps le commentaire de la loi et son accomplissement. Clément voit dans cette unité l'essence même de l'unicité de l'Église. Dans l'unité d'une foi une, la foi conforme aux testaments qui lui sont propres, ou plutôt ce testament unique en des temps différents, l'Église qui, par la volonté du Dieu un et par l'intermédiaire de l'unique Seigneur, réunit ceux qui ont déjà leur place assignée. Bon, je passe sur d'autres textes qui évoquent la tradition dont dépend Clément. Par exemple, au livre 7 de ses Hypotyposes, dans un fragment transcrit par Eusèbe, il dit « À Jacques le Juste, à Jean et à Pierre, le Seigneur, après sa résurrection, donne la gnose. Ceux-ci la donnèrent aux autres apôtres. Les autres apôtres la donnèrent aux 70, dont l'un était Barnabé. » Cette gnose est parvenue jusqu'à Clément lui-même, comme il l'écrit, après avoir évoqué avec ses rencontres avec des maîtres chrétiens jusqu'à son arrivée en Égypte. Une telle tradition qui prétend l'emporter par sa légitimité sur les successions que revendiquent les hérésiarques et qui remonte au Christ lui-même, concerne les sujets les plus difficiles. Un texte important mérite d'être cité à ce propos. La science vraiment parfaite remonte jusqu'au-delà du monde dans le domaine des réalités intelligibles et de celles qui sont encore plus spirituelles. Elle atteint ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur des hommes, 1 Corinthiens 2:9, avant que le Maître ne nous ait fourni des explications claires et complètes sur ces sujets en révélant aux héritiers authentiques et non illégitimes de l'adoption du Seigneur les réalités saintes entre toutes, agia agion, et même, en allant plus haut, les réalités plus saintes encore. Ainsi, en effet, osons l'affirmer, et c'est en cela que réside la foi du gnostique, le véritable gnostique sait tout et veut tout saisir grâce à une ferme compréhension même de ce qui nous met dans l'embarras, comme l'ont fait Jacques, Pierre, Jean, Paul et les autres apôtres. La prophétie est en effet remplie de gnose, car elle a été donnée par le Seigneur et rendue claire grâce à lui encore pour les apôtres. La gnose est ainsi la découverte de la parole divine dans l'Écriture, une parole dont le sens est réservé à ceux qui sont capables de franchir l'obstacle de son obscurité. Je ne donnerai qu'un texte ici. Un des thèmes principaux de Clément est en effet que les Écritures pratiquent l'épicrypsis, le cryptage. C'est pour bien des raisons que les Écritures tiennent leur sens caché. D'abord, pour que nous soyons des chercheurs et que nous restions constamment éveillés par la découverte des paroles du salut. Ensuite, il ne convenait pas que tous comprissent, sous peine de se faire du mal en interprétant à tort les paroles prononcées par l'Esprit Saint en vue du salut. Voilà pourquoi les paraboles recouvrent d'un voile les mystères sacrés des prophéties réservés aux hommes élus et qui ont été choisis pour passer de la foi à la connaissance. Le style des Écritures est effectivement de l'ordre de la parabole, car le Seigneur, au kurios, qui veut dire aussi propre, que j'aurais tendance ici à traduire par primordial pour, comme vous verrez, donner sa cohérence au texte, car le Seigneur, au kurios, qui n'était pas du monde, est pourtant venu chez les hommes comme étant du monde, il a porté sur lui toute la vertu et voulait par la gnose élever l'homme qui vit dans le monde jusqu'aux réalités intelligibles et primordiales, curia, en le faisant passer d'un monde à un autre monde. Aussi a-t-il eu recours précisément à l'écriture métaphorique, car telle est bien la parabole, un discours qui, partant d'un sujet non primordial, les introduisant au sujet primordial, curio, mène l'homme intelligent jusqu'à ce qui est vrai et primordial. C'est encore, comme le disent certains, une expression qui fait voir efficacement le sens primordial par le moyen d'autres mots. Ce travail n'est pas à la portée de tous. Clément le répète de multiples façons. Pureté morale, compétence en herméneutique, effort de l'étude sont indispensables. Mais aussi les lumières reçues d'une tradition authentique remontant au Christ et qui éclairent la compréhension du genre symbolique, genre qui tient une grande place dans tous les écrits de Clément. Le respect de la tradition légitime, par ailleurs, tend à éliminer l'exégèse qualifiée d'hérétique, elle qui use aussi du symbolisme. Il reste que le motif de l'élection, voire de la prédestination, rapproche Clément de ses adversaires. Ce motif fait partie assurément du contenu de la gnose. Je terminerai par quelques mots sur le contenu de la gnose et le style de Clément. Il est difficile de répertorier les sujets qui appartiennent à la gnose. La question a fait l'objet de nombreux débats. On peut au moins dire que la recherche sur les voies de la providence, sur la destinée des peuples et des individus, en relève. Le gnostique aspire aussi à connaître le projet créateur de Dieu, les origines et les fins dernières, les réalités intelligibles et les êtres invisibles, ainsi que les relations entre tous les êtres raisonnables. La fin promise étant l'égalité avec les anges et la participation au cœur divin. La connaissance de soi-même en tant que recelant l'image de Dieu est une pièce essentielle de la gnose qui est liée au mystère de la relation avec Dieu. Quant à la connaissance de Dieu le Père transcendant lui-même, en son essence, elle est inaccessible. Clément rejoint à cet égard l'apophatisme de certains philosophes médioplatoniciens. Au terme d'un développement sur l'impossibilité de dire Dieu ou même de le nommer adéquatement, il cite l'adresse de Paul aux Athéniens à l'Aréopage en introduisant par ces mots « Il en résulte que c'est par grâce divine et par le Logos seul qui vient de Dieu qu'on peut concevoir l'inconnu. » On ne peut accéder qu'à ses attributs, aux effets de sa volonté. L'époptie elle-même, au sommet de la gnose, dans le silence et contemplation sainte de la sainteté de Dieu. La gnose, ici-bas, à propos de la divinité et la connaissance du Fils de Dieu. Un texte très dense est à ce sujet décisif. Dieu, écrit-il, quant à lui, n'étant pas objet de démonstration, anapodeictos, n'est pas objet de science, épistémonikos, mais le Fils est à la fois sagesse, science, vérité, et tout ce qui est apparenté à cela. Aussi admet-il démonstration et explication. Et toutes les puissances de l'esprit, prises ensemble et devenues une seule réalité, s'accomplissent en un seul être, le Fils, sans que celui-ci se réduise à indiquer la notion relative à chacune de ses puissances. En fait, le Fils n'est pas simplement un comme un, ni une multiplicité impliquant des parties, mais un comme impliquant la totalité, d'où il résulte qu'il est aussi la totalité, car il est le cercle de toutes les puissances rassemblées et unifiées. C'est pourquoi le Logos est appelé l'alpha et l'oméga, duquel seule la fin devient commencement et s'achève en nouveau commencement à partir du début, sans rupture nulle part. C'est pourquoi croire en lui et par lui, c'est devenir un, étant indissolublement unifié en lui, tandis qu'être incrédule, c'est être séparé, disjoint, partagé. Nous avons certainement là l'une des semences de gnose que Clément a voulu cacher dans ses stromates. Le titre complet de l'ouvrage est en effet « Stromates de mémoire gnostique selon la vraie philosophie ». Clément prend pour modèle aussi de l'écriture elle-même, telle qu'il le conçoit. Bon, je passe sur certains passages. Un passage fameux est à rappeler dans le traité sur les « Quel riche sera sauvé ?»« Contemple les mystères de l'amour, tates agapes mysteria, et alors tu contempleras le sein du Père que le Fils unique de lui-même est le seul à avoir montré. C'est bien lui, le Dieu amour, et c'est par amour pour nous qu'il s'est laissé prendre. Ce qui est inexprimable en lui est Père. Ce qui a de la compassion pour nous est devenu Mère. En aimant, le Père est devenu féminin, et le grand signe en est celui qui l'a engendré à partir de lui-même. Le fruit enfanté par amour est amour, car si celui-ci est descendu lui-même, a revêtu l'humanité et a accepté de subir des souffrances des hommes, c'était pour être mesuré à notre faiblesse par amour et nous mesurer en retour à sa propre puissance. Dans les lignes qui précèdent, une réflexion sur les rôles des élus dans l'accomplissement ultime du corps mystique du Christ et ce qui ressemble au mythe du Sauveur sauvé est proche des méditations des gnostiques valentiniens. Ceux que Clément nomme les élus parmi les élus, retirés à l'abri du monde, cachent, dit-il, les mystères ineffables au plus profond de leur esprit et ils dédaignent de faire voir leur noblesse dans le monde. Le Logos les appelle « lumière du monde ». C'est la semence, l'image et la ressemblance de Dieu, son fils légitime et son héritier, envoyé ici-bas comme sur une terre étrangère par un grand dessein harmonieux du Père. Par son intermédiaire, le monde visible et le monde invisible ont été créés, que ce soit pour son service, son entraînement ou sa formation. Tant que cette semence demeure ici-bas, tout se maintient avec cohérence, mais dès qu'elle sera récoltée, tout se défera très vite. Alors, souvent, Clément fait éprouver à ses lecteurs le désir de parvenir à la contemplation gnostique en mimant le mouvement qui fait progresser au moyen d'un récit qui se réfère lui-même à des sujets de la gnose. Ainsi en va-t-il de l'interprétation symbolique de l'entrée du grand prêtre dans le Saint des Saints. C'est alors, dit-il, que le grand prêtre, après avoir quitté la tunique sanctifiée, le monde et la création dans le monde ont été sanctifiés par celui qui a reconnu excellent les êtres créés, se lave et revêt l'autre tunique, celle du Saint des Saints, pour ainsi dire, celle qui entrera avec lui dans le sanctuaire secret. Il indique ainsi, me semble-t-il, que le lévite est aussi le gnostique en tant qu'il peut être au-dessus des autres prêtres. Ceux-ci ont été lavés à l'eau, se sont revêtus de la foi seule et reçoivent la demeure qui leur est propre, mais lui, qui discerne les choses intelligibles et sensibles, qui se hâte en dépassant les autres prêtres dans son ascension vers l'entrée du monde spirituel, est lavé des choses d'ici-bas, non plus par l'eau, comme auparavant lorsqu'il était purifié à son admission dans la tribu lévitique, mais déjà par le logos de connaissance, pur dans son cœur tout entier, ayant parfaitement dirigé sa conduite jusqu'au sommet, ayant grandi bien au-delà de la taille du simple prêtre, en un mot sanctifié de parole et de vie, revêtu de plus de l'éclat de la gloire, recevant l'héritage indicible de l'homme spirituel et parfait que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'a pas monté au cœur de l'homme, devenu fils et ami, il est déjà face à face, rempli de la contemplation qui ne rassasie pas. Le développement parallèle des extraits de Théodote, beaucoup plus complexe, rivalise avec la profondeur des doctrines valentiniennes, tout en s'y opposant. Dans le Stromate 7, Clément évoque plusieurs fois l'ascension de l'âme vers la contemplation. Voici l'un de ces passages. « Et peut-être un tel homme possède-t-il dès ici-bas, par anticipation, l'égalité avec les anges. En tout cas, après avoir atteint dans la chair la situation finale la plus éminente, il ne cesse de passer, comme il se doit, à un état supérieur et il se hâte vers la maison du Père pour atteindre la véritable demeure du Seigneur à travers l'hebdomade sainte, afin d'y devenir en quelque sorte une lumière stable et demeurant dans son être propre, absolument immuable à tous égards. Cette immutabilité du gnostique au sommet de son ascension, associée aux textes nombreux où Clément donne en exemple l'état de perfection, a fourni à Fénelon des arguments en faveur de son idéal de l'état passif du mystique, d'autant qu'il trouvait chez lui la supposition impossible du pur amour, formulée en ces termes dans le Stromate 4. Supposons qu'on propose au gnostique le choix entre la connaissance de Dieu et le salut éternel. Si ces deux choses, qui sont plus que n'importe quoi identiques, étaient distinctes, sans aucune espèce d'hésitation, il choisirait la connaissance de Dieu, estimant préférable en elle-même cette propriété particulière de la foi qui, par l'amour, s'est élevée jusqu'à la gnose. Clément insiste trop cependant sur les efforts nécessaires à toutes les étapes du progrès gnostique pour que sa pensée soit en adéquation parfaite avec celle de Fénelon. Il reste que pour lui aussi, la gnose est foncièrement liée à l'amour, à l'agapé, qu'elle se confond même avec lui, à sa cime. Walter Völker en a étudié toutes les résonances proprement chrétiennes. Ne pas en parler serait trahir Clément. Il est même à l'origine de la mystique orientale, voire occidentale, à cet égard, au début d'une tradition qui passe par Origène, Évagre Pontique, Origène, Grégoire de Nice, Jean Climac, Simon le niveau théologien et d'autres. Mais ce serait la matière d'un autre exposé. Je vous remercie.